Le Dvar Malchut, sur la paracha de cette semaine, la paracha Shmini, peut être étudié au moyen d'un exemple du Zohar, de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors avant tout, il faut savoir que la prière d'un juif, elle est comparée à une échelle dont les pieds reposent sur terre et le sommet parvient jusqu'au ciel. Plus on s'élève vers le haut, plus on se rapproche de Dieu, jusqu'à se tenir devant lui au moment où on récite l'Amida, plus on se fait tout petit. Et ça s'exprime par le fait que l'Amida, elle est prononcée à voix basse. Parce que justement, on est dans un état de soumission, dans un état de profonde humilité, et on parle tout doucement parce qu'on est très proche de Dieu à ce moment-là. Donc cette soumission la plus totale vis-à-vis de Dieu, elle s'exprime aussi par un simple point. Pourquoi ? Parce que l'exemple qu'on donne généralement, c'est celui de la pupille de l'œil. On voit bien que plus il y a de lumière, plus la pupille de l'œil rétrécit. Et quand il y a beaucoup de lumière, elle devient vraiment un tout petit point. Ce point-là, il représente justement la soumission la plus totale. Ce point-là, c'est aussi la première lettre du nom d'Avayé, Yud. Yud, ça représente la séphira de Chochma. Le He, ça représente la séphira de Bina. Vav, ça correspond au Midot. Et le dernier He, du Shem Avayé, ça représente la séphira de Malchut. Donc la séphira de Chochma, qui est le début de la révélation vraiment de la lumière divine dans le monde et dans l'âme d'un juif, c'est un simple point. Ce simple point, il représente justement cette profonde humilité, cette profonde soumission vis-à-vis de l'Éternel. Alors l'enseignement du Zohar qui nous intéresse ici, parce qu'il introduit le sujet de la paracha Shmini qui est étudié par le rabbi dans le Dvar Malchut, c'est que le Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne que le point doit illuminer le palais. Le point, ça représente le point qu'on dessine à l'intérieur de la lettre Bet. Et c'est donc, ça représente la séphira de Chochma. La lettre Bet elle-même, elle représente la séphira de Bina. C'est le Rabbi Rayatz qui a expliqué cette déclaration du Zohar et qui nous enseigne que la qualité de Chochma, quand on veut expliquer et définir la séphira de Chochma, on explique que c'est un éclair intuitif, un éclair divin. C'est le début de la compréhension, mais c'est pas encore la compréhension effective. Quand est-ce qu'on comprend vraiment de manière véritable? C'est quand on fait intervenir la force de Bina, qui correspond au raisonnement. On raisonne à partir de ce point-là, à partir de cet éclair qu'on reçoit de Dieu. Cet éclair vraiment qui est divin, qui est abstrait, on le développe du haut vers le bas, on raisonne, on fait intervenir notre propre logique, et on développe ce point, ce raisonnement, pour parvenir à comprendre la chose. La séphira, la force de Da'at, c'est le fait vraiment de ressentir ce raisonnement de manière profonde, et là, vraiment, on peut parler d'une compréhension effective. Mais quand on parle du point de Chochma, on parle de quelque chose qui est encore abstrait, quelque chose qui n'est pas encore défini, quelque chose qui contient vraiment l'infini divin et qui est au-delà de toutes les limites. Ce point-là, il doit, d'après le Rabbi Shimon Bar Yochai, il doit illuminer le palais, c'est-à-dire qu'il doit illuminer notre raisonnement. Et le Rabbi Rayatz explique que si on fait que raisonner à partir de l'éclair qu'on a reçu, de l'éclair de compréhension qu'on a reçu au départ, si on ne fait que raisonner et qu'on s'éloigne de ce point, alors on finit par, même si on a un raisonnement qui est juste, on finit par s'éloigner de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle est divine, et la vérité, elle doit être constamment illuminée par justement cet éclair divin, l'éclair de Chochma. C'est une force incroyable, c'est une force qui est divine, la force de Chochma. C'est une force qui dépasse notre propre raisonnement, notre propre logique. C'est une force qui est au-delà de l'intellect. Donc, en d'autres termes, on voit que ce qui est au-delà de l'intellect, ça doit toujours dominer, ça doit toujours éclairer le palais. C'est-à-dire, ça doit éclairer notre logique, ça doit éclairer nos raisonnements. Donc, ce principe-là, c'est le point qui doit illuminer le palais. Ce point-là, c'est la séphira de Chochma, elle doit illuminer la séphira de Bina, elle doit illuminer notre raisonnement. Et on peut appliquer ce principe-là dans notre propre vie. On peut dire que le point, justement, il représente la Géoula, le désir du dévoilement du Mashiach, le désir du dévoilement de Dieu, du Beth Amikdash, le dévoilement de la délivrance, c'est le point qui doit illuminer le palais, c'est-à-dire qui doit illuminer notre vie, qui doit illuminer nos pensées, nos paroles et nos actes. Donc c'est un principe qui est fondamental. Et le Rabbi Riatz, il explique que si on parvient vraiment à ce que le point illumine le palais, alors on arrive au ta'anoug, vraiment au plaisir. C'est-à-dire que tous nos raisonnements, toutes nos réflexions, elles seront toujours animées par la vérité, par l'éclair de Chorma. Et ce principe-là, pourquoi il est important de le signaler ici, c'est parce que justement, la paracha de cette semaine, telle qu'elle est développée par le Rabbi, c'est la paracha Shmini. Shmini, ça correspond à justement à la construction du Mishkan. C'est-à-dire que pendant, on voit que tout le travail que Moshe il va accomplir les premiers jours, c'est uniquement les 7 premiers jours, c'est donc ça correspond au travail de Moshe, c'est le 8e jour que la présence divine va se révéler dans le Mishkan. Donc le chiffre 7, il représente au travail de l'homme, et il provoque le dévoilement de Dieu, le dévoilement de la présence divine dans le monde. Donc le chiffre 7 et le chiffre 8, tels qu'ils sont expliqués par le Rabbi, ça correspond aussi aux forces de l'âme, aux forces naturelles de l'âme, c'est-à-dire vraiment les forces de l'intellect, les forces du sentiment, l'action elle-même, l'action de l'homme. Quand l'homme il s'attache vraiment à étudier la Torah, à approfondir chaque concept avec ses propres moyens, donc ça c'est le chiffre 7, il parvient par ce travail-là à provoquer en lui-même et dans son âme le dévoilement de ce qui est au-delà de lui-même, c'est-à-dire le dévoilement de l'essence divine et l'essence de l'âme, puisque l'essence de l'âme elle est enracinée dans l'essence divine. C'est peut-être ici l'occasion de dire que, justement, le choix du Rabbi, quand il a intitulé son œuvre, toutes ces sirot qu'il a prononcées du Dvar Malchut, peut-être que ce choix, il est lié justement avec ce principe-là. Puisque Malchut, ça désigne la dernière séphira du monde d'Atzilut, et elle est qualifiée par la Chassidut comme pauvre. Pourquoi on dit que Malchut est pauvre ? Parce qu'elle ne possède pas de lumière qui lui est propre. Toute la lumière qu'elle va donner ensuite, qu'elle va dispenser dans les mondes de Bria, de Yetzira et d'Assia, dans notre monde lui-même, toute cette lumière-là, c'est la lumière qu'elle a reçue des séphirot supérieurs, des séphirot qui la dépassent. Et justement, c'est pour cela qu'on dit d'elle qu'elle est pauvre. Elle ne fait que recevoir sa lumière, elle ne possède pas sa propre lumière. Donc cette pauvreté, entre guillemets, de la séphira de Malchut, elle correspond aussi à sa grandeur. Parce qu'on voit très bien que c'est précisément quand un juif, il est pauvre, c'est-à-dire qu'il est totalement conscient de son éloignement vis-à-vis de Dieu, et qu'il va s'asseoir à la table de son maître, et qu'il va écouter les paroles de la Torah de son maître, et qu'il va faire de lui-même un réceptacle pour recevoir ses enseignements, les enseignements précieux de son maître, on peut le qualifier à ce moment-là de pauvre, parce que justement, il est dénué de tout orgueil. Il considère vraiment, il est humble lui-même, et il considère qu'il a tout à apprendre de son maître. Donc c'est précisément cette pauvreté, entre guillemets encore une fois, qui va lui permettre d'atteindre ensuite l'opulence, qui va lui permettre ensuite de parvenir à dépasser son propre maître. C'est pour ça même que la séphira de Malchut, elle est comparée à la lune, parce que de la même façon on voit que la lune, elle ne possède pas une lumière qui lui est propre, toute la lumière qu'elle nous donne, elle provient du soleil, et de la même façon on dit que dans les temps futurs, la taille de la lune, elle va grandir, elle va retrouver sa taille originelle, et elle va s'élever vraiment au niveau du soleil, c'est-à-dire que vraiment, elle va s'élever de la même façon qu'il est écrit que dans les temps futurs, la séphira de Malchut va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Donc on voit très bien que c'est par l'humilité la plus profonde qu'on parvient à l'opulence, qu'on parvient au plus haut dévoilement divin. Évidemment, pendant l'exil, cette conscience, puisque la teshuva elle-même, quand on parle de teshuva, quand un juif il fait teshuva, on explique et on souligne que la teshuva, ça vient d'abord du fait qu'on a conscience de notre propre manque, qu'on a conscience vraiment qu'on doit s'élever. C'est pour ça que le rabbi explique qu'un juif, d'un côté, il doit avoir conscience de sa petitesse, et en même temps, de la possibilité qu'il a de s'élever. De quelle manière il va s'élever? C'est justement par son attachement au rabbi. Le rabbi, le Moshe de la génération. Ça, c'est le point qui est important, qui est souligné ici par le Rabbi dans le Devant Malchut sur la Parasha Shmini. Le Rabbi nous dit une phrase dans le Devant Malchut qui est vraiment importante. Il nous enseigne que Moshe lui-même, il est l'intermédiaire entre l'Assemblée d'Israël et Hachem. Et il écrit qu'il a la capacité d'unir les enfants d'Israël avec le Saint béni soit-il, car l'infini et le fini sont en lui. Qu'est-ce que ça signifie que l'infini et le fini sont en lui? L'infini, ça correspond à la partie la plus élevée de l'âme de Moshe, ici en l'occurrence, c'est-à-dire l'essence de l'âme de Moshe. L'essence de l'âme de Moshe, elle est révélée en lui de manière constante. On voit cela aussi chez le Rabbi. C'est-à-dire que chez un juif qui n'a pas ce niveau-là, l'essence de l'âme, elle est quelque part, entre guillemets, en exil, puisque elle n'exerce pas, elle ne dévoile pas toute sa force. Parfois, à certaines occasions, l'essence de l'âme d'un juif, elle va se révéler et elle va éclairer la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Il y a des moments propices pour cela, comme par exemple le jour du Shabbat, entre la prière de Mincha et la prière d'Arvit, ou le moment de Yom Kippour, au moment de la Neila, où Yechida se dévoile vraiment à ce moment-là. Donc il y a des moments qui sont propices au dévoilement. Donc c'est comme un cadeau que Dieu il va donner à un juif en dévoilant l'essence, la force de l'essence de son âme, et qui va avoir conscience à ce moment-là de vraiment de toute la richesse de son être. Puisqu'à partir du moment où un juif, il dévoile la partie la plus profonde de son âme dans son intellect, dans son cœur et dans ses actes, à ce moment-là, sa vie, elle est transfigurée. Elle a un sens qui est profond, immensément profond, infiniment profond. Et ça se reflète dans ses actions. Donc c'est un véritable trésor que possède chaque juif, la force de l'essence de l'âme juive, qui est enracinée dans l'essence divine. On peut se rappeler vraiment de cet enseignement du Rabbi, quand il explique que quand on dit la prière de Modéani, alors cette prière-là, d'après le pshat, d'après le sens simple, on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme, de nous avoir redonné la vie, mais le Rabbi nous enseigne que l'enseignement de la chassidoute, le chidouche de la chassidoute, c'est pas seulement de remercier Dieu parce qu'il nous rend notre vie chaque matin, c'est de le remercier surtout de nous avoir donné une âme juive, une vie juive, l'occasion d'accomplir les commandements divins, d'accomplir les mitzvot, l'occasion d'étudier la Torah. C'est ça la signification profonde du Modéani. Donc ce point-là, le Nekuda, le point de la Yahadout, l'essence de l'âme juive, c'est encore une fois ce point-là qui est à l'intérieur du Bet, c'est-à-dire que c'est ce point-là qui doit illuminer le palais. On pourrait même dire que la lettre Bet elle-même, la valeur numérique, c'est le chiffre 2, on pourrait dire que ça correspond, ça fait allusion aux deux côtés du cœur, là où réside l'âme animale et l'âme divine, et que quand le point illumine le palais, illumine le cœur, à ce moment-là, la force du Yetzer Hara, elle est totalement évaporée, elle n'existe plus, parce que rien ne peut résister justement à la force de l'essence de Dieu. Et quand on parvient à dévoiler ce niveau-là, alors on unit, comme on l'a dit, le chiffre 7 au chiffre 8, c'est-à-dire que le chiffre 8 il correspond à vraiment ce qui est illimité, une force qui est illimitée, on la dévoile dans la nature, dans notre propre nature. Donc c'est ça le point qui est ici important, parce que justement quand on dit que le Rabbi explique que Moshe il possède l'infini et le fini, les deux sont en lui-même, il exprime le fait que chez Moshe, la partie la plus élevée de son âme illumine les forces de son âme, illumine son être tout entier. C'est pour cela qu'on l'appelle Ish Elohim. Ça fait référence au fait que justement Moshe il unit deux choses qui sont vraiment contraires, et par le fait de se trouver dans ces quatre coudées, de s'attacher à ces enseignements, comme il est écrit, le Rabbi Elkan, il explique que celui qui se trouve dans les quatre coudées du Rabbi, à ce moment-là, le Rabbi va dévoiler l'essence de son âme. Donc c'est ça le sens profond de la Parasha Shmini, c'est de dévoiler ce chiffre 8 dans ce monde limité, dans ce monde naturel, dans notre être limité, dans notre propre nature, pour justement parvenir à nous dépasser totalement. Par ailleurs, le Rabbi nous enseigne que cette humilité de Moshe, puisqu'on dit de Moshe que c'est l'homme le plus humble parmi tous les hommes, l'humilité de Moshe, c'est justement la raison pour laquelle il a le mérite que l'infini soit dévoilé en son âme, C'est parce que Moshe, comme s'il est écrit dans le Pirkei Avot, a reçu la loi du Sinaï et l'a transmise à Yoshua. Ce verset qui est expliqué de la manière suivante. La montagne du Sinaï, par le fait qu'elle soit la plus basse parmi toutes les montagnes, exprime l'humilité et la soumission la plus totale vis-à-vis de l'Éternel. Et le Rabbi nous enseigne alors que Moshe a reçu la loi du Sinaï, signifie qu'il apprend du Sinaï, qu'il est animé par la plus grande humilité et parfaitement soumis à Dieu. Donc on voit que c'est par la force de soumission vis-à-vis de Dieu, c'est par l'exceptionnelle humilité de Moshe qui parvient à ce que l'infini et le fini soient en lui-même. C'est donc la qualité du Rabbi, le Rabbi les définit comme le maître de l'essence de l'âme, et ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment que c'est l'humilité qui nous amène finalement à l'opulence. On dit par exemple de Rabbi Yosef Karo, que s'il a eu le mérite d'écrire le Shulchan Aruch, parce que justement il y en avait plusieurs à l'époque qui étaient préoccupés par ce travail-là, et c'est lui qui a eu le mérite vraiment d'arriver jusqu'au bout, lui-même et le Rameau. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui étaient les plus humbles. C'est par l'humilité qu'on parvient à la plus grande richesse. On peut dès lors comprendre un peu mieux l'enseignement du Dvar Malchut, puisque le Rabbi nous enseigne que la signification du chiffre 7 et du chiffre 8 nous explique que le chiffre 7, ça représente la perfection de ce monde, parce que le monde, il a été créé en 6 jours, et le 7e jour, qui est le jour du Shabbat, apporta le repos en ce monde. Et donc le chiffre 7, il va symboliser la lumière divine qui s'habille dans ce monde matériel, mais qui est une lumière qui est limitée. Et à l'opposé, le chiffre 8, il symbolise la lumière divine qui est au-delà du monde. Et le 8e jour fut donc le jour de la révélation de Dieu dans le Mishkan. Donc le point qui est souligné par le Rabbi, c'est que la lumière du 8e jour, elle n'est pas séparée du monde. Pourquoi ? Parce que le monde qui est limité va devenir un réceptacle d'une lumière qui est illimitée. Parce que justement, c'est valable aussi pour l'âme d'un juif. À partir du moment où un juif, il travaille pendant les jours de la semaine avec toutes les forces de son intellect, il reçoit en cadeau le jour du Shabbat, un amour pour Dieu qui est au-delà de l'intellect. Donc on voit que le dévoilement de ce qui est illimité, ça passe par un travail qui est rigoureux, par un travail ordonné, ça passe par le fait d'exploiter nos forces naturelles. Et c'est par ce travail-là qu'on parvient à recevoir, à faire de nous-mêmes un Mishkan pour recevoir le dévoilement de la lumière du 8e jour, la lumière qui est au-delà du monde et de toutes les limites, la lumière qui n'a pas de fin ni de mesure. C'est pour ça que le Rabbi souligne que le Mishkan y fut construit par les mains de l'homme. Donc on voit que c'est par le travail de l'homme qu'il parvient ensuite à dévoiler la présence divine à l'intérieur du Mishkan et en lui-même, et même dans l'univers tout entier. Donc c'est par un travail qui est au départ avec ses propres forces. Et par ce travail-là, on parvient au dévoilement de la lumière du 8e jour. Le Rabbi rapporte, pour illustrer tous ces enseignements-là, un enseignement de l'Admor HaZaken qui s'accorde avec l'enseignement du Rabbi, et qui nous dit que l'intellect est lui-même une force qui est limitée, comme on l'a dit, comme le chiffre 7 qui représente ce monde limité. Or, c'est précisément par l'étude de la halakha que l'intellect va devenir un réceptacle de l'essence de l'âme, laquelle est peut-être comparée au chiffre 8, qui représente, comme on l'a dit, cette lumière divine infinie qui se dévoile dans le Mishkan. Donc on voit que c'est par l'étude de la partie révélée de la Torah qu'on fait de nous-mêmes un réceptacle pour recevoir l'enseignement profond de la Torah, pour recevoir l'essence elle-même. Donc on peut exprimer cet exemple par le sens simple. Quand le Rabbi explique le sens simple du mot Dehani, on doit comprendre d'abord qu'on remercie Dieu, évidemment, de nous avoir rendu notre âme, de nous avoir rendu notre vie, notre existence. Donc ça, c'est d'après le sens simple. Et c'est un réceptacle pour recevoir ensuite l'enseignement de la Chassidoute, quand le Rabbi nous enseigne que le chidouche de la Chassidoute, c'est de remercier Dieu, non pas seulement pour nous avoir rendu notre vie, mais pour nous avoir rendu une vie juive. Alors ce Shabbat, évidemment, c'est le Shabbat Mevarichim, où on va bénir donc le mois à venir, le mois de Nissan, le mois de Pessah. Et c'est le mois de la Matzah, c'est le mois du Bitoul, le mois de la soumission. C'est pour ça que c'était bien d'étudier cette Dvar Malchut de la Parasha Shmini pour introduire ce sujet-là justement, le sujet de la soumission, de soumettre notre être tout entier pour faire de nous-mêmes un réceptacle pour recevoir l'essence de la Torah par la bouche du Mashiach avec l'aide de Dieu dès à présent. Shabbat Shalom, Umevohar.